bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors on est bien content de vous retrouver en ce dimanche matin pour notre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'astronomie amateur. Aujourd'hui, on fait l'émission à deux dans le studio, Fred qui vous parle et Axel.
Yes, salut tout le monde.
Alors c'est le 64e épisode de l'émission. Et bien on va encore quand même rementionner le podcast hein, sur le site de RDWA, rdwa.fr. Vous allez dans les émissions thématiques et vous trouvez l'étoile polaire avec un L apostrophe. Là, vous aurez les émissions précédentes. Alors, on n'a toujours pas accès à toutes les émissions depuis la première. Voilà, pour raison un peu de réorganisation du site et des hébergeurs. Mais ça ne saurait tarder. Il y a quand même les émissions depuis la fin décembre. Toujours illustré par Axel et Rémi, qui à chaque fois nous fournissent de bien belles images du ciel. Alors, sommaire de cette émission. On va commencer comme d'habitude avec le ciel ce soir, pour un petit peu vous raconter ce qu'on peut observer une fois que la nuit est tombée, et que les nuages nous permettent d'observer quand même,
parce qu'en ce moment... Pour vous inviter à regarder aussi.
Pour vous inviter à lever les yeux. Ouais. Hein, c'est un peu ce qu'on a mis sur le descriptif de l'émission. Voilà, inviter à regarder le ciel et ses merveilles. Donc le ciel ce soir. Ensuite, Axel, tu vas nous parler des aurores boréales.
Mm-hmm. Donc, sujet d'actu.
Sujet d'actualité, voilà. Et après la pause musicale, je ferai une petite rubrique à brac en fait sur Monsieur Henri Poincaré, et voilà, scientifique de la fin du siècle, fin du 19e, début du 20e, et on parlera un peu de ses contributions à différents aspects des sciences.
Un mathématicien avant tout, je crois, non ? Bon, tu nous en parleras plus.
On en parlera, yes. Mais oui, c'était surtout un mathématicien. Voilà pour ce sommaire. Alors, on va démarrer avec le ciel ce soir. Axel, aujourd'hui, c'est toi qui vas nous raconter tout ça.
Ouais, le ciel de cette fin de mois de mai 2024, et en fait, tous les mois de mai, c'est la Vierge qui est la plus au sud, qui est au méridien au moment du coucher de la nuit, qui n'est pas tout à fait au méridien, un petit peu avant, sur le méridien, vraiment sur cet axe nord-sud. On est entre le Lion et la Vierge au sud, entre Cassiopée et Céphée, je crois, au nord, ouais, c'est ça. Et vous avez trois étoiles bien brillantes quand vous regardez vers le sud. En ce moment, je vous les fais de gauche à droite, d'est à sud. La première, ce sera Vega, une étoile bien brillante qui se lève à 22h et quelques, 22h30. Un peu plus à droite, un peu plus haut aussi dans le ciel, c'est Arcturus qui est bien là. Et justement, bien au sud, c'est Spica, l'étoile l'épi, on l'appelle aussi Spica en latin, l'épi de la Vierge, l'étoile la plus brillante de la Vierge. En dessous de cette Vierge, j'aime bien voir en ce moment le Corbeau, un petit rectangle ratatiné là, qui est sous la Vierge, qui est bien au sud, qui est pas souvent accessible par chez nous, justement parce qu'elle est très au sud et très basse sur l'horizon.
Alors merci pour le corbeau, ce rectangle ratatiné. Moi, juste mention sur le corbeau, parce que je me suis fait la réflexion, ouais. On dirait presque un faux scorpion. Ah oui. Enfin, on retrouve un peu le haut dans sa forme, en fait, la tête du scorpion avec les pinces.
Oui, c'est vrai.
Sauf qu'on voit bien, évidemment, en fait, que on n'a pas affaire à...
Antares,
qui n'est pas aussi orangé. Enfin, c'est clairement pas le scorpion, mais en fait, il y a une espèce...
Dans la forme, en tout
ouais,
cas.
Dans ouais. la forme, je trouve que ça rappelle un peu le haut du scorpion, plus qu'un rectangle à ratatiner.
Enfin, ça va, personne n'est du signe du corbeau, je risque pas de blesser.
Tu blesses personne.
Bon. Le scorpion, il faut attendre un peu, lui, pour le voir. Mmh. C'est plutôt vers 1h, 2h du matin qu'il est bien là. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion l'autre nuit, profitant de belles nuits, là. À 3h du matin, on a le ciel du début de soirée de l'été, quoi.
Tout à fait.
Avec la Voie lactée qui est bien placée, pas tout à fait au méridien, mais pas loin. Enfin, voilà. Le scorpion, le sagittaire, tout ça.
Mais tu as parlé de Vega d'ailleurs, hein, qui fait quand même la première à apparaître du triangle d'été.
Ouais.
Et à ce sujet, moi, effectivement, l'autre soir, c'était la première fois de l'année Bon, c'était assez tard dans la nuit, il était 2 ou 3 heures du matin. Mmh. Et là, le scorpion, il était bien sorti. Et j'avoue, oui, ça fait toujours quelque chose. Je trouve que c'est quand même une des constellations majeures du ciel au niveau visuel, ce scorpion. Et c'est d'autant plus vrai quand vous descendez un peu en latitude, que vous allez un peu plus vers l'équateur, parce que là, vous voyez vraiment la queue du scorpion
En entier.
Et c'est quand même...
Avec sa pince, j'allais dire, son dard,
son dard,
au bout de la queue, avec l'étoile Shaola.
Est très longue cette constellation en réalité, on la voit quasiment jamais, je pense même en entier sous nos latitudes, mais dès qu'on descend un peu, d'ailleurs c'est une constellation qui a été pas mal divinisée dans le passé par les peuples de l'Antiquité, ou qui est associée à certaines divinités. Je sais qu'au Brésil par exemple c'est Yemanja, la déesse des eaux salées, qui est représentée dans le ciel comme ça. Moi c'est une constellation que personnellement j'aime beaucoup.
Et qu'est-ce qui se passe au zénith alors, au moment du tomber de la nuit et peu après? Eh bien au zénith, en ce moment, on a la grande ourse qui est là et qui est complètement retournée. Ça y est, elle a quitté sa position de point d'interrogation dont on a beaucoup parlé, dressée sur son manche, là, cette casserole. Là, elle est complètement à l'envers. Et d'ailleurs, vendredi dernier, je discutais sous le ciel étoilé avec un papa et sa fille adolescente. Et tout de suite, elle a dit... il y a la casserole là. Et son père, mais où? Et il la voyait pas à l'envers comme on la voit en ce moment, plutôt à l'envers, à moins de regarder vers le sud et de se casser la nuque. Mais si on regarde vers le nord et qu'on cherche la grande ours au zénith, là, voilà, elle est complètement à l'envers, la casserole de la grande ours.
Mais la petite fille l'avait reconnue.
Ouais, elle l'avait bien reconnue. Et son père l'a cherché un peu jusqu'à ce que je lui montre au laser et qu'il dit, ah, mais oui, d'accord, à l'envers, comme ça. Voilà, toujours cet étonnement de ne pas la trouver dans sa position de casserole, en fait. Avec une casserole, normalement, ça a toujours le
fond
cul posé
bas,
sur le. Mais bon, celle-là, non, elle tourne. Voilà, pour ce qui est des planètes, j'ai pu les voir, mais alors là, c'est pour les très couche-tard comme moi, ou alors les lève-tôt,
pas comme moi,
parce que j'ai pu voir à 5h du matin, Saturne, bien levé, et Mars qui suivait derrière, dans les premières lueurs de l'aube, 5h et quelques du matin. Voilà, une petite émotion aussi quand même de revoir Saturne, parce que j'avais pas veillé jusque-là, ou en tout cas pas sous un beau ciel, depuis un moment, et là, de voir Saturne au petit matin, ça fait plaisir. La première Saturne de l'année.
Sûr. Je ne l'ai pas encore vue.
Je ne l'ai pas encore vue au télescope, mais rien qu'à l'œil nu, je suis content de la retrouver.
Oui, mais là, elle est beaucoup trop basse. De toute façon, le télescope, ça n'a pas d'intérêt majeur, je pense.
Voilà.
Mais super, merci Axel. Alors, on va continuer un peu en lien avec tout ça, et vous parler des aurores boréales, puisque ça a été d'actualité... jusque chez nous et même plus au sud. Et je te laisse nous dévoiler tout ça.
Je vais commencer avec mon témoignage de cette nuit de vendredi, puisque ça n'aura échappé à personne. Le lendemain, tous les médias, tous les réseaux sociaux en étaient inondés. Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11, cette nuit a été illuminée par de grandes aurores boréales, jusqu'à nos latitudes provençales, voire plus. Ce qui est aussi rare que de voir une émission de l'Étoile Polaire avec l'équipe au complet. Rémi et Pierrick, on vous embrasse. Je me trouvais à l'observatoire Cosmodrome pour profiter justement d'une météo enfin favorable à la pratique de l'astronomie. Et pendant que je m'affairais à faire fonctionner tous mes instruments pour capturer l'image de galaxies lointaines, mon collègue Denis reçoit un appel téléphonique. C'était minuit et demi, donc un appel tardif, qui l'invitait à regarder au nord. Et là, magie. Au-dessus de l'horizon nord-est, se démarquait clairement une lueur pourpre, un nuage pourpre, qui s'élevait jusqu'à au moins 30 degrés. Et en laissant glisser le regard vers le nord, jusqu'à l'ouest même, étaient visibles de grandes colonnes, légèrement rosées, montant facilement à 70 degrés d'élévation. Ces dites colonnes plantées sur un liseré verdâtre qui surlignait l'horizon. Le spectacle était tout bonnement grandiose, un mélange d'émotions assez fortes m'a traversé, matérialisé par même des petites larmes de bonheur, des rires de stupeur, une réaction que seule l'astronomie m'a déjà fait vivre la première fois que j'ai vu Saturne dans un télescope par exemple. Des aurores boréales, à l'œil nu, et surtout depuis la Drôme, un rêve qui se réalise et sans même aller jusqu'au Grand Nord. Wow. Une forte activité qui a perduré pendant quasiment une heure. Mais le phénomène a réellement disparu au gré de l'aube naissante vers 4h30, 5h du matin. Mais toute la nuit, on a pu voir d'immenses colonnes éphémères qui s'allumaient, qui s'éteignaient sur une durée d'une dizaine de secondes. Avec mon smartphone, d'ailleurs, j'ai pu immortaliser cette nuit qui restera dans les mémoires. Et grâce à un temps de pause de l'ordre de 10-15 secondes, les images sont chargées d'intenses couleurs. Ce sera d'ailleurs une de ces images qui illustrera le podcast de cette émission à retrouver sur le site rdwa.fr, comme tu le disais, Fred. Et j'ai noté le lendemain l'affluence importante au sommet de la montagne de Bergiès, donc dans la nuit suivante, qui ne peut être due qu'au traitement médiatique de l'événement. Et ça m'a donné envie de rappeler, avec une once d'agacement, mais un peu d'ironie aussi, que le ciel mérite d'être regardé chaque nuit, que certains phénomènes somptueux peuvent s'y produire sans que l'on s'y attende, et que comme les étoiles filantes, on a à peine le temps de les signaler qu'elles sont déjà terminées.
C'est bon.
Regardez le ciel tout le temps et n'attendez pas que TF1 en parle, parce que le lendemain, c'est cette quarantaine de personnes que j'ai vu débarquer, ils n'ont rien vu. Ils étaient déçus un peu, mais il n'y avait plus rien à voir le lendemain.
Bah, on aurait pu espérer en voir aussi le lendemain, puisque j'ai regardé un peu sur les cartes là, où se sont passées ces aurores. Le samedi soir, il y en avait encore en Belgique.
Ouais.
Donc on n'était pas loin, on est passé à côté, mais oui. C'était pas si loin en fait.
Tout à fait. Et toi, donc Fred, t'as pu les voir ces
Moi, j'ai pu les voir, mais grâce à toi. Et je t'en remercie. Moi, par contre, j'étais pas en Drôme provençal, j'étais dans le Diwa. Et à minuit et demi, j'ai reçu ton message. Et là, j'ai pas cru. Enfin, j'ai regardé la photo, j'ai regardé l'heure. Je me suis dit, mais il est où? C'est pas possible. Donc là, Donc je suis sorti et. En réalité, ici, on les a vus. Donc moi, j'étais à Saint-Romain ce soir-là. Mais on n'avait pas les couleurs. On n'avait pas du tout la même intensité de couleurs. Par contre, moi, ce que j'ai vu, j'ai vu quand même cette espèce de lueur diffuse. Et striée. Ouais. Vous le verrez sur la photo, parce qu'on le voit sur les photos que tu as prises. En fait, il y a vraiment une structure en fait, de la lumière. Il y a des zones... Ça fait comme des stries, en fait, des stries sombres, des stries noires, et cette lueur qui monte comme ça, en flèche un peu vers le ciel. Et par contre, alors ça occupait, oui, tout le nord, nord-est, en fait, de l'horizon. Et la teinte, c'était quand même légèrement coloré.
Ouais.
Il y avait une teinte quand même qui était, on va dire, entre le rose et l'orangé. Mais en même temps qu'il y a une teinte qu'on pourrait retrouver par exemple sur une nuit de pleine lune un peu rouge quoi. On a un peu les lunes un peu rouges comme ça, un peu ce type de teinte. Donc c'était pas, voilà, donc j'étais à la fois hyper, vraiment heureux de voir une aurore boréale parce que j'en ai jamais vu de ma vie et j'avoue que c'est quand même une sorte de rêve quoi, que j'ai. Donc j'étais quand même super content de le voir et en même temps un petit peu frustré de pas avoir ces couleurs qui sont quand même aussi caractéristiques de l'aurore boréale, en tout cas telle qu'on s'imagine quoi.
Ouais.
Voilà, donc pour le Diwa et pour ceux qui ont... moi je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah c'était ça !» parce qu'ils ont noté cette lueur quand même. Il y avait la lune aussi ce soir-là, un petit croissant de lune.
Ouais.
Et il y a des gens qui se sont dit « Bon, c'est la lune, ou voilà, mais qui n'ont pas percuté en fait que ce qu'ils étaient en train de voir c'était l'aurore boréale. Mais ils ont noté une lueur un petit peu inhabituelle. Voilà. Donc du coup, là où j'étais, j'en ai fait profiter les gens. Venez voir, quoi, regardez. Voilà. Donc merci Axel encore. Je pense que grâce à toi, sans toi, je serais passé à côté. Donc, mais c'était quand même un spectacle quoi, qui procure une belle émotion. Quoi.
Ouais. Et alors d'où ça nous vient un peu ces aurores boréales? Alors j'ai trouvé l'explication, l'hypothèse, on va dire, d'une certaine Rosalie sur Facebook, que je ne connais pas, et qui nous dit que la source de ces aurores est sans doute le nombre d'antennes téléphoniques et l'épandage permanent de nanoparticules dans notre atmosphère.
No comment.
Alors, peut-être, mais comment expliquer qu'on n'en observe pas tous les soirs, puisque l'épandage est permanent, je répète, d'après Rosalie, et les antennes relais n'ont pas poussé dans la nuit. Comment expliquer qu'on en voit, qu'on en observe régulièrement sur Saturne, sur Jupiter? Et surtout, comment expliquer qu'on ait pu voir ça précisément 3 jours après que la plus grosse tache solaire observée depuis 1859 passe au méridien de notre astre, autrement dit le moment où la tache nous fait face. Les taches solaires qui sont des endroits. On en a parlé il y a l'émission dernière, je crois déjà. On en a
oui, parlé même plusieurs fois. Oui, Pierrick avait parlé de
Sceaux. Ah oui, c'était ça. Bon, je le rappelle quand même, mais on a cette énorme tache solaire qui passe pile face à nous, qui indique une forte activité magnétique à cet endroit-là, et qui en fait lâche une sorte de proute magnétique qui part du Soleil, qui part dans notre direction à une vitesse d'environ 1000 km/s. À 1000 km/s, il faut environ 3 jours pour arriver sur la Terre. Donc on voit cette tache qui passe devant nous. 3 jours après, on a ça. Ce nuage de plasma, une sorte de gaz énervé, de gaz électrisé, le plasma, qui vient illuminer les gaz justement de notre atmosphère en rentrant en contact avec elle.
Oui, juste, je voudrais quand même aussi préciser par rapport à cette hypothèse farfelue que des aurores boréales, on en observe depuis la nuit des temps et oui. On en observe depuis bien avant l'ère industrielle et l'ère technologique. Donc en fait, il faut quand même arrêter un peu le délire.
En fait, le phénomène est presque exactement le même que l'on utilise dans les néons. Alors, le principe d'un néon, c'est qu'on enferme du gaz dans un tube, on met une forte tension électrique au pôle de ce tube. Et l'électricité passant, ça illumine ce gaz. Alors d'ailleurs, les tout premiers néons de l'histoire, et on devrait appeler que ceux-là les néons, ils étaient rouges, les vieilles enseignes, c'était rouge parce que le néon électrisé devient rouge. Aujourd'hui, et on en a au-dessus de notre tête dans le studio là, ça s'allume en blanc parce que dedans c'est du fluor qu'on électrise. Donc on appelle ça, dans le jargon, des tubes fluo. Voilà, c'est un peu le même effet. On a du gaz dans l'atmosphère, de l'électricité arrive en masse et ça s'allume. Le phénomène donc est même aujourd'hui assez prédictible grâce aux sondes spatiales envoyées par l'humanité dans le but d'observer continuellement le Soleil. On parlait de Sceaux, Pierrick nous parlait de Sceaux la semaine dernière, et ainsi qu'aux modèles créés par les scientifiques depuis des décennies. Tu avais parlé aussi, Fred, d'une application qui alerte des chances de voir des aurores boréales. Tu ne lui as pas fait confiance parce qu'elle a crié au loup trop souvent.
C'est Aurora Forecast, ça s'appelle. Ouais. Et effectivement, vendredi dans la soirée, j'ai reçu deux notifications dont je n'ai pas tenu compte parce qu'en fait, elle m'avait tellement dit n'importe quoi que j'ai laissé tomber. Et bon, ouais, force de crier au loup, comme on dit. Ouais.
Et oui, c'est ça. À noter d'ailleurs que là, depuis tout à l'heure, on parle d'aurore boréale. Et on parle d'aurore boréale pour l'hémisphère nord et australe pour l'hémisphère sud, le terme générique étant les aurores polaires. Pourquoi les boréales sont plus connues, c'est pas seulement parce qu'on habite dans le nord, c'est parce que les australes sont rarement visibles en dehors de l'Antarctique, où ne vit guère que 5 scientifiques et quelques 12 millions de manchots, mais qui prennent jamais la peine de nous les partager sur Instagram. Voilà, j'ai envie de parler pour conclure justement de la périodicité, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Que les aurores sont visibles en France. Et d'ailleurs, nos voisins bretons ou ch'tis en ont fait l'expérience à plusieurs reprises cet automne et cet hiver. Il y a eu plusieurs fois, au mois de novembre, je crois, puis au mois de février encore, où j'ai vu des photos de bretons, de gens dans le Nord-Pas-de-Calais, en Normandie, qui arrivaient à voir de telles aurores. Et la dernière itération notable, quand même, visible jusqu'à chez nous, ça remonte à 2003, mais de mémoire d'homme, on en a relevé pas mal. En fait, je parlais tout à l'heure que là, on avait vu la plus grosse tache solaire depuis 1859. Et bien, celle de 1859 a donné des aurores visibles sur l'ensemble de la Terre. Wow. Des boréales jusqu'à l'équateur, des australes jusqu'à l'équateur qui remontent, les autres qui descendent. Enfin, voilà. On en a vu donc en 1859, en 1869... En 1872, 1894, 98, le 26 mars 1908, visible à Paris, et cette fois sans avoir vu de tache solaire avant. Ça peut arriver aussi. Et puis en 1915, 1926, en janvier 38, jusqu'au sud de l'Europe, même au Maroc d'ailleurs, on a un signalement d'un navire qui voguait à 28 degrés de latitude nord et qui l'a aperçu. En 1938, on a aussi des relevés, enfin des textes qui nous disent que la couleur rouge a fait craindre à beaucoup d'observateurs non initiés, au mieux un incendie, sinon un mauvais présage des dieux ou d'autres choses. Les casernes de pompiers, notamment à Londres, qui ont été submergées d'alerte, ce qui n'est pas sans rappeler la nuit où l'électricité a sauté à New York et que le public a été terrorisé par la vue de la Voie lactée. C'était en 2000, 2002.
Je crois qu'il y a eu un gros pic de natalité 9 mois plus tard.
Exactement. Et ça, j'en avais parlé aussi dans une émission. Voilà, et donc, vous voyez, toutes les dates là, que j'ai données, hein, c'est des aurores qui étaient visibles en France, parce que, évidemment, dans le Grand Nord, c'est quasiment annuel. Et vous aurez noté, avec un peu d'attention, que c'est visible à peu près tous les 11 ans. C'est quand même bizarre que tous les 11 ans, ça colle avec la périodicité des pics d'activité solaire tous les 11 ans également. N'est-ce pas, Rosalie ?
On va la laisser tranquille, parce que c'est pas grave.
Voilà.
Merci Axel, je vais rajouter une ou deux petites choses. Bien sûr. Effectivement, cette tache solaire, là, tu m'as montré une photo là, qui a été prise à l'observatoire, elle est impressionnante, je n'avais jamais vu ça.
Ça fait quelques 17 fois le rayon de la Terre, diamètre de la Terre.
On dirait un chapelet en fait, un chapelet de tâches.
On pourra la mettre sur le podcast aussi, on peut poster plusieurs photos sur le podcast.
On peut essayer de faire ça, parce qu'elle est vraiment impressionnante cette tâche. Et d'autre part aussi, préciser un peu pourquoi on les observe au pôle et pas ailleurs, on les observe préférentiellement au pôle, c'est quand même, ce phénomène, il est vraiment lié au champ magnétique de la Terre.
Oui, ça, j'en ai pas parlé.
Toutes les planètes n'ont pas forcément un champ magnétique. En fait, c'est peut-être pas pour rien non plus aussi que la vie a pu se développer sur Terre, parce que sans champ magnétique, on n'est pas protégé de ces rayonnements. Donc on peut aussi le mentionner, c'est-à-dire que effectivement, les scientifiques avaient observé cette grosse tache solaire, donc savaient qu'il y avait quelque chose qui venait vers nous. Mais c'est le genre de truc où il vaut mieux pas qu'il y ait un cosmonaute qui soit dehors au moment où ça passe, parce que là, en fait, ils sont irradiés, ils en meurent. C'est quand même des rayonnements qui sont extrêmement énergétiques, même à une certaine distance du Soleil, parce qu'on n'est quand même pas tout près non plus du Soleil. Mais ces particules-là sont extrêmement énergétiques et sont assez destructrices, en fait. Donc, il peut y avoir, comme on dit souvent, des perturbations sur les systèmes électromagnétiques, etc. Mais voilà, si vous avez un cosmonaute qui est dehors à ce moment-là, il en meurt. Et en fait, toutes ces
parties... Pas dans l'ISS, parce qu'ils sont très proches de la Terre.
Non, quand je dis dehors, c'est vraiment dehors. Ouais, c'est hors du vaisseau. Ouais. Mais l'ISS et tous les vaisseaux, justement, sont conçus aussi pour protéger des radiations solaires, les cosmonautes qui sont à l'intérieur.
Oui, je pense qu'un burst comme ça de plasma, l'ISS elle est à 400 km, les aurores ça se produit à 1000 km d'altitude. Donc les astronautes sont encore assez protégés, ils sont encore dans le bouclier.
Mais par exemple, c'est des questions qui se posent pour la Lune.
Mais par contre, voilà, pour aller plus loin.
Ceux qui seront sur la Lune, etc.
C'est
des questions qui se posent. Ouais.
Ah ouais, tout à fait.
On l'avait déjà évoqué. Ouais. Donc en fait, il y a quand même cette idée. En fait, si vous regardez, il faut regarder les lignes de champ magnétique de la Terre. Donc, on parle du pôle Nord, pôle Sud, que ce soit terrestre ou en fait magnétique, qui sont sensiblement les mêmes, même si pas exactement. Toutes les lignes de champ, en fait, elles viennent converger. On a l'impression qu'elles sortent du pôle Nord pour retourner au pôle Sud. Vous avez probablement, ou peut-être pas, mais déjà vu des diagrammes des champs magnétiques terrestres. Et en fait, ces particules de plasma qui sont ionisées, qui sont chargées, donc ont une charge électrique, et en fait vont être piégées dans les lignes de champs magnétiques de la Terre, et piégées et ramenées au niveau des pôles, en fait. Ensuite, une fois qu'elles sont à l'intérieur, elles vont pouvoir justement, dans l'atmosphère, descendre plus bas. Mais ces particules vont être attirées, vont être guidés en fait par la magnétosphère vers les pôles. Donc c'est pour ça qu'on a qu'on appelle ça des aurores polaires en fait, parce que principalement ça se passe là. Voilà, je voulais quand même mentionner le rôle majeur de la magnétosphère terrestre. Si on n'avait pas de magnétosphère, on n'aurait pas d'aurore boréale, d'aurore polaire.
Tout à fait. Merci de ces précisions, Fred.
Et ben merci Axel. C'est clair qu'en tout cas c'était un grand moment d'observation du ciel, quoi.
Ouais.
C'est quand même c'est magique. Ça fait partie des phénomènes les plus impressionnants que le ciel peut nous offrir. Bon, et sur ces bonnes paroles, on va faire une petite pause musicale. Cette semaine, ça va être un morceau de Jamiroquai, de son premier album, à l'époque où il s'intéressait plus à ce qui se passait autour de lui qu'aux voitures de sport et aux top modèles. Il y a un morceau qui s'appelle « Emergency on Planet Earth ». « Et bon retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. C'était Jamiroquai. On va reprendre le déroulé de ce 64e épisode. Et donc, cette semaine, dans la rubrique Abrac, je voulais vous parler de Henri Poincaré, qui était un mathématicien, un physicien théoricien et un philosophe des sciences, qui est né en 1854 et qui est mort en 1912. Donc ce Poincaré, en fait, il est assez méconnu, on va dire, par le grand public. Il est par contre très connu des scientifiques, et en particulier des mathématiciens, mais aussi des astronomes, et on va voir un petit peu pourquoi. C'est quelqu'un qui a eu des contributions majeures en optique, en calcul infinitésimal. C'est quelqu'un qui a travaillé sur le problème à trois corps, dont je vais reparler, et qui a été un peu la source d'inspiration pour faire cette chronique aujourd'hui. Il a travaillé sur les équations différentielles. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est quelque chose qui est très courant en mathématiques. Et c'est un précurseur majeur de la relativité restreinte, rien que ça, et également de la théorie du chaos. Alors, théorie du chaos, juste pour en dire deux mots, ça ne veut pas dire que c'est le désordre, hein, on reste sur des phénomènes prédictifs, mais c'est tout ce qui est, en fait, tous les systèmes qui sont très sensibles aux conditions initiales, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu l'effet papillon, type la météorologie, c'est l'exemple parfait, où en fait, vous avez un système que vous maîtrisez, entre guillemets, c'est-à-dire vous pouvez... Vous connaissez toutes les équations qui régissent ce système, mais en fait, une toute petite différence dans les conditions initiales que vous y introduisez va générer en fait assez vite des décalages complets dans les résultats. Donc voilà, c'est ça la théorie du chaos. Donc c'est quand même pas rien, et en fait, il est considéré comme un des derniers savants universels, c'est-à-dire... Un des derniers scientifiques à plus ou moins appréhender tous les domaines de la science de son époque. Et c'est vrai que quand on regarde dans le passé, les scientifiques n'étaient pas aussi spécialisés qu'ils le sont maintenant. C'est venu surtout dans le courant avec le XXe siècle, en fait. Avant, les hommes de science faisaient tout. Des maths, de l'optique, de la philosophie, etc. Et c'était le cas de Henri Poincaré. Alors, je vais commencer par quelques petits éléments de biographie. Donc déjà, ce Henri Poincaré, c'est le cousin germain du président de la République, d'un des présidents de la République, donc de la première partie du
20e. Ah oui, il y avait un Poincaré président.
Voilà, ouais. Il y a eu un Poincaré président, ouais. Donc, en fait, il fait quand même partie d'une famille, on va dire, influente. Alors... Juste ce qui m'a marqué, c'est qu'à 5 ans, le petit Henri a été victime de la diphtérie. Et donc, il est resté paralysé pendant 5 mois. Et c'est là qu'il a commencé à se plonger dans la lecture, en fait. Parce qu'il l'a jamais quitté. Et voilà, ça m'a un peu fait tiquer parce qu'il y a... En fait, il y a pas mal de parcours de gens comme ça que je peux rencontrer qui, à un moment donné de leur vie, ont été sérieusement malades et forcé à l'inaction, et en fait, il y en a beaucoup qui ont transformé ça en quelque chose de positif. C'est un truc... Bon, voilà. Donc, c'était plutôt un élève d'exception, en fait. Hein. Il était, dès le départ, très, très doué pour les études. Donc, il a fait ses études au lycée de Nancy. Alors, pour l'anecdote, quand il a passé son bac, il a eu 0 en maths, parce qu'il est arrivé en retard, et en fait, il avait plus ou moins, on ne sait pas, mal compris le sujet ou pas. Ça parlait des séries convergentes. Et en fait, c'est un domaine où, par la suite, il a fait des contributions majeures.
30 ans après, c'était lui le sujet de bac.
Ouais, c'était un peu ça. Et il s'est pris un 0, donc il s'est rattrapé à l'oral. Donc voilà, il a eu son bac un peu ras des pâquerettes. C'est quelqu'un qui aussi avait une sorte d'inaptitude sportive. Hein. Il était peu doué de ses mains. C'est quelqu'un qui était très, très dans sa tête, avec des comportements donc décrits un peu comme obsessionnels, capable de se passionner pour un truc, un peu la figure du savant fou là, qu'on trouve des fois dans Jules Verne, les gars qui s'enferment dans leur pièce et puis qui en oublient même de manger, en fait. Et il était vraiment comme ça. Donc après son bac, il a intégré l'école polytechnique, ensuite l'école des mines. Donc voilà, on a affaire à quelqu'un qui se retrouve quand même, de par ses études et puis de par sa famille, hein, dans l'élite en fait, hein, dans l'élite française. Donc il s'est retrouvé chargé de cours à Caen en 1879. C'est là qu'il a commencé à avoir les premiers résultats importants sur les équations différentielles. Alors je ne vais pas me lancer dans une explication de ce que c'est qu'une équation différentielle, mais c'est l'idée en fait d'une équation qui va relier des fonctions, mais aussi les dérivées première ou seconde ou troisième de ces fonctions. Donc là, ça parlera aux mathématiciens, mais je ne vais pas plus m'étendre. Et du coup, en fait, il s'est tout de suite intéressé aux applications de ces équations différentielles en physique, et particulièrement en mécanique. Alors là, je précise que la mécanique, hein, pour les physiciens, il ne s'agit pas de mécanique automobile. Il s'agit en fait de décrire le mouvement des corps, le mouvement des objets. C'est ça la mécanique. Donc on parle de mécanique céleste en particulier pour décrire le mouvement des planètes autour du Soleil, par exemple. Ensuite, il a été maître de conférence à la Faculté des sciences de Paris en 1881. Et toute sa vie, grosso modo, il va cumuler les honneurs. Donc il a été prof à Polytechnique, il a été président de la Société mathématique de France, membre de l'Académie des sciences. En 1896, il obtient la chaire d'astronomie mathématique et de mécanique céleste. Donc là, ça nous concerne un peu plus. Il a été président de la SAF, la Société astronomique de France, entre 1901 et 1903. Il a été président de la Société française de physique et il a fini par être même élu à l'Académie française en 1908. Voilà, et il est mort d'une embolie à la suite d'une opération de la prostate qui a mal tourné. Voilà un peu pour un rapide survol de sa vie. Alors, je peux pas développer ici toutes ses contributions aux sciences et en particulier aux mathématiques. Déjà parce qu'il y en a énormément et deuxièmement parce que c'est quand même relativement technique et... Et voilà, donc je vais juste pointer les choses qui nous intéressent un peu du point de vue de l'astronomie dans cette émission. Et je vais commencer par sa contribution majeure à la relativité. Alors là, ici, on parle de relativité restreinte, hein, la théorie en fait, qu'Einstein a développée en 1905 et qui permettait en fait, qui remplace la mécanique newtonienne, toujours mécanique au sens de mouvement des corps. Il y avait quand même un petit problème qui les occupait, là, les physiciens, à partir de la fin du 19e, c'est qu'ils ont bien compris que la vitesse de la lumière était limitée. Enfin, elle était toujours la même. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire toujours cette vieille idée, hein, vous prenez par exemple un train avec des phares allumés. Vous mesurez la vitesse de la lumière quand le train est à l'arrêt, vous allez trouver autour de 300 000 km par seconde. Si le train roule à 200 km/h, vous n'allez pas trouver sur la vitesse de la lumière 300 000 plus 200 km/h. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous allez trouver toujours la même chose. Donc là, il y avait un vrai problème en fait, auquel se sont heurtés les physiciens à l'époque, entre autres problèmes. Mais donc la relativité restreinte, je vous renvoie à des émissions passées que j'ai déjà traitées ces sujets. C'était vraiment de la mécanique. Là où la relativité générale, elle, est une théorie de la gravitation. Là aussi, on en a déjà parlé. Donc, en 1902, Poincaré publie un ouvrage qui s'appelle « La science et l'hypothèse ». Alors, c'est un peu plus de l'épistémologie, c'est-à-dire d'une sorte de philosophie des sciences. Mais dans cet ouvrage, il émet des idées qui vont être en fait majeures dont Einstein s'est inspiré en réalité. Il remet en question le temps absolu, l'espace absolu et aussi l'importance de l'éther. Alors l'éther, en fait, ça n'existe pas, mais c'était un truc que les physiciens de l'époque, à la fin du 19e, en fait, avaient inventé pour expliquer un peu tout ce qu'ils ne comprenaient pas. Donc c'était censé être une espèce de fluide aux propriétés très bizarres, parce qu'en fait ça n'existe pas. Donc forcément ils construisaient des théories sur du vent. Mais,
oui, aujourd'hui c'est compliqué à comprendre, quoi. Je pense que dans le contexte à l'époque,
dans le contexte, ouais. En gros c'était un gros tapis sous lequel on pouvait mettre tous les trucs qu'on ne comprenait pas.
Hein, voilà, mais c'était un peu dans l'idée, c'était comme si l'espace n'était pas vide.
C'est ça.
À la place du vide de l'espace, vous mettez l'éther.
C'est ça, qui était une espèce de fluide qui baignait tout, qui avait des propriétés étranges et qui permettait d'expliquer l'inexplicable. Mais en fait, ça ne marchait pas. Et donc, je vous ai relevé une petite citation de cet ouvrage, mm-hmm. La science et l'hypothèse, où il dit « Ainsi, l'espace absolu, le temps absolu, la géométrie même, ne sont pas des conditions qui s'imposent à la mécanique. Toutes ces choses ne préexistent pas plus à la mécanique que la langue française ne préexiste logiquement aux vérités que l'on exprime en français. Quand même...
Ouais, non, c'est bien.
Ah ben.
Bravo.
Donc en 1905, il pose les équations de ce qu'on appelle les transformations de Lorentz. Alors là aussi, je ne détaille pas, mais c'est quelque chose de c'est vraiment un gros pilier des mathématiques et puis même de la physique, parce qu'en fait, ces transformations, elles correspondent à ce qui se passe quand on change de référentiel, en fait. Quand on change de référentiel dans un espace à quatre dimensions. Alors, il n'a pas encore la notion d'espace-temps qui va vraiment être introduite par Einstein, la même année d'ailleurs. Mais il sait qu'il faut, pour décrire en fait, la position d'une particule et son mouvement, et ben, il faut trois coordonnées d'espace et puis le temps, quoi. Donc, quand il pose ces transformations de Lorentz, il réalise que par ces transformations, par exemple, les équations de Maxwell, qui sont les équations qui régissent en fait l'électromagnétisme, sont invariantes. C'est-à-dire que ça ne change pas. Les équations restent les mêmes. Alors, ça peut paraître un peu nébuleux dit comme ça, mais en fait, c'est un résultat hyper important qui dit que quel que soit le référentiel dans lequel vous trouvez, en fait, les lois de l'électromagnétisme sont les mêmes. C'est quand même pas rien. Et en fait, de ces calculs-là, il y a un certain nombre de grandeurs qui sortent et qui vont, tout comme les équations de Maxwell, être invariantes, dont la vitesse de la lumière. Ce qui pose aussi, comme je vous ai dit au début, des problèmes même philosophiques hyper importants. Pourquoi la vitesse de la lumière, elle est finie? Comment c'est possible? Il y avait eu des expériences qui avaient été faites en fait pour mesurer, en utilisant la rotation de la Terre pour mesurer la vitesse de la lumière. En fait, en tenant compte, vous mettez un point de la Terre et vous avez la rotation de la Terre et vous mesurez la vitesse de la lumière en fait, soit dans la direction du mouvement de rotation et donc normalement la vitesse de la lumière devrait être augmentée de la vitesse de rotation de la Terre et à l'inverse quand vous le faites dans le sens inverse de la rotation de la Terre, cette vitesse devrait être déduite de la vitesse de la lumière et en fait ça n'est pas le cas dans les deux cas. La vitesse de la lumière est toujours la même, ce qui est quand même contre-intuitif au possible. Donc ce qui est intéressant, c'est que Einstein, donc, lui, il va retrouver ces transformations de Lorentz et il va aller plus loin en introduisant l'espace-temps et en développant sa théorie de la relativité restreinte. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement important pour la physique moderne, puisque c'est depuis cette époque, la relativité restreinte, c'est la mécanique correcte. Et qu'en fait, on applique la mécanique de Newton que dans les cas où les vitesses sont très inférieures à la vitesse de la lumière. Donc, ce qui est le cas dans le système solaire, par exemple. Mais dès qu'on s'approche de la vitesse de la lumière, il n'y a plus rien qui marche. Et ça, en astrophysique, on y flirte très souvent avec la vitesse de la lumière. Donc, on est obligé, en fait, de tenir compte de ces effets-là. Donc, on a quand même affaire à quelqu'un dont on a complètement, on va dire que dont le grand public a complètement oublié le nom. Mais qui en réalité a émis des idées qui ont contribué à développer à orienter en fait la réflexion d'Einstein lui-même. Donc c'est pas rien. Il a eu aussi des idées sur la gravité, où en fait il a démontré que la propagation des perturbations du champ gravitationnel se déplaçait à la vitesse de la lumière. Donc en fait il appelait ça des ondes gravifiques. Mais en réalité, en fait, c'est le précurseur des ondes gravitationnelles. Même si à l'époque, il n'y avait pas ce concept-là, on n'en était pas encore là dans le développement de la science. Les ondes gravitationnelles, je rappelle que il y a des prix Nobel qui sont tombés, c'était après les années 2000, pour la première fois qu'on les a observés.
Ah, 2014.
Donc on a quelqu'un qui est vraiment un génie, en fait. Un précurseur vraiment fondamental des sciences modernes. Et puis je vais terminer avec ce fameux problème à trois corps. Qui m'a un petit peu donné l'idée de cette chronique. Parce que vous avez peut-être vu, il y a une série de science-fiction qui est sortie, qui s'appelle Le problème à trois corps, qui est tiré d'un roman de science-fiction chinois. Et en fait, dans lequel il est question d'une planète qui se développe avec trois soleils, en fait. C'est autour d'un système triple et des problèmes que ça peut générer, etc., pour le développement des civilisations. Donc le problème à trois corps, en fait, c'est, et plus généralement on appelle ça le problème à n corps, c'est un problème que les astrophysiciens ont depuis toujours, c'est-à-dire comment décrire le mouvement de corps qui s'attirent mutuellement, donc par la gravitation, et comment trouver les équations qui vont décrire leur mouvement. Et en fait, quand vous n'avez que deux corps, tout se passe bien. Donc ça avait été, c'est ce qu'on appelle les lois de, on retrouve les lois de Kepler, les choses comme ça. Donc c'est par exemple, vous prenez une planète toute seule autour d'une étoile, et là, pas de problème. Vous sortez toutes les solutions, les équations, vous trouvez tout ce que vous voulez. Mais dès que vous passez à trois corps, en réalité, ça ne marche pas. Donc il y avait eu un concours en 1888 auquel Poincaré avait participé, et il avait démontré en fait que, avec les connaissances de l'époque, il n'y avait pas de solution générale. On ne peut pas résoudre en fait ces équations. Et donc en fait on a eu de cesse au cours du 20e siècle d'essayer de trouver des solutions à ce problème à trois corps, mais parce que tout simplement les astrophysiciens ils en avaient besoin, parce que si vous prenez le cas du système solaire, là c'est pas deux corps qu'il y a, il y a le soleil, mais il y a aussi toutes les planètes qui sont autour, et on sait que toutes leurs lunes, etc. Alors en réalité on est quand même obligé de simplifier le problème, au sens où, déjà, on parle de problèmes à trois corps non relativistes, c'est-à-dire là où les vitesses dans l'espace sont autour de 10 km seconde, donc on est loin de la vitesse de la lumière qui est à 300 000. Dès que vous allez en relativiste, évidemment, les équations sont encore plus compliquées et encore plus insolubles. Et puis, c'est simplifié parce qu'on considère que, par exemple, il n'y a pas de frottement dans le milieu, que le milieu interplanétaire est entièrement vide, ce qui n'est pas vrai. On considère qu'il n'y a pas de charge électrique, pour simplifier les choses, et qu'il n'y a que la gravitation, et ce n'est pas vrai non plus. Mais voilà, on cherche des solutions quand même à ces problèmes-là. Et finalement, en fait, alors il y a quand même une solution analytique exacte, en réalité, qui a été découverte en 1909 par Sandman, mais qui introduit ce qu'on appelle les développements en série. Alors, pour faire court, le développement en série, en fait, c'est de dire, voilà, je prends cette fonction, et cette fonction, au lieu de... Enfin, je vais dire qu'elle est égale, en fait, à une somme infinie de termes simples. Voilà, c'est un peu ça, le développement en série. Okay. Le problème, c'est qu'en fait, comme ces séries-là, elles convergent très lentement. Alors, c'est peut-être un peu technique ce que je dis là, ça parlera aux mathématiciens, mais c'est pas grave. Comme ces séries convergent très lentement, en réalité, il faut un temps extrêmement long pour arriver à trouver les solutions, et ça marche pas. Donc, il a fallu attendre 1991, en fait, pour qu'un certain monsieur Wang trouve une solution exacte qui soit un peu plus exploitable. Et finalement, dans les années 2000, ce qu'on a appelé la solution en 8 de Schenzinger et Montgomery, qui en fait permettent de non pas d'écrire exactement l'équation, mais de trouver des solutions qui se rapprochent de très près de la réalité, et de les trouver dans un temps qui ne soit pas trop long. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, vous vous rendez bien compte que c'est quand même assez un peu pointu quand même, et c'est très mathématique, donc je ne vais pas aller plus loin. En tout cas, je voulais, voilà, je voulais parler de ce monsieur Poincaré.
Moi, je le connaissais pour une aventure un peu pareille que celle que tu viens de citer. C'était ce qu'on appelé la conjecture de Poincaré, oui. Donc, qui était un problème mathématique qu'il a posé, qui était en gros, est-ce qu'un objet en 3D qui ressemble à une sphère, est-ce qu'on peut le réduire en un point, enfin, un truc comme ça, et qu'il a énoncé en 1904,
début du 20e, ouais.
et qui a été résolu que très récemment, après les années 2000, par un russe, Perelman, qui d'ailleurs, ce problème mathématique était... Il y avait une récompense à celui qui arrivait à trouver la solution, et ce Perelman, il n'a pas voulu la récompense. Il a dit non, moi j'ai trouvé, mais gardez vos sous.
Juste pour que cette récompense, c'était une simple médaille Field. Hein,
je crois qu'il y avait de l'argent. Hein.
Et aussi de l'argent. Ah, oui. Et il a refusé les deux. Il a dit
je suis juste content d'avoir l'amour de l'art. 100 ans après. Quoi.
Une conjecture en maths, c'est un truc en fait, c'est un peu comme un postulat en physique. Quoi. C'est quelque chose, on pense que c'est vrai, mais on est incapable de le démontrer.
Maintenant, du coup, on l'appelle le théorème de Perelman, quand même. Enfin, donc, voilà, en tout cas, ce Poincaré, il a T'es visionnaire, quoi.
Il a été visionnaire, puisqu'on a mis 100 ans sur certains trucs, sur certaines intuitions qu'il avait, à les démontrer. Donc voilà, c'était un peu pour parler de cet homme et ses différentes contributions et quelque part rendre un peu hommage à son travail.
Mais merci Fred.
Mais avec plaisir, on espère que vous n'avez pas trop perdu sur la fin. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne semaine et de belles observations.
Ouais, on vous rappelle de lever les yeux.
À bientôt.
À bientôt.